Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle édition de la saison 2 du Corporate Chat Podcast. Vos animateurs aujourd'hui sont Cédric Nadeau, ainsi que moi-même, Émile Journet, tous deux étudiants en finance à l'Université McGill. Notre invité aujourd'hui est Vincent Delisle. Vincent Delisle occupe le rôle de premier vice-président et chef des marchés liquides à la Caisse de dépôt et placement du Québec, où il dirige les équipes responsables des portefeuilles en marché boursier, revenus fixes, répartition d'actifs et dette privée. Vincent Delisle cumule également plus de 25 ans d'expérience en stratégie de répartition d'actifs ainsi qu'en gestion de portefeuille dans des compagnies comme Exavest, où il a été chef des placements, ainsi qu'à la banque Scotia, où il a été stratège en chef. Vincent Delisle est aussi connu dans les médias puisqu'il a souvent accordé des entrevues sur des sujets touchant les marchés publics. Sans plus attendre, voici notre conversation avec Vincent Delisle.
Bonjour Vincent, ça va bien?
Oui, ça va bien, bizarre.
Oui, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui à vos bureaux de la CDBQ. C'est très apprécié de prendre du temps pour nous parler aujourd'hui. Si on commence par parler un peu de ton parcours, tu as obtenu un diplôme en finance à l'Université Laval. Qu'est-ce qui t'a poussé vers des études en finance et ultimement une carrière en finance?
Oui, j'ai commencé mon bac en 1989 à l'Université Laval. C'est un bac plus en administration qu'en finance. Alors, 2 ans d'administration, 1 année en finance. Et après ma graduation, j'ai eu un poste comme négociateur, comme trader en obligation puis en repo à Québec à l'époque. Alors, il y avait un petit gestionnaire institutionnel qui était basé à Québec. J'ai eu mon premier emploi là-bas. C'est là vraiment que j'ai appris la finance de marché. Puis j'ai eu la piqûre pour les marchés financiers. À l'époque, en 1994-95, tout était encore en papier. Je passais des heures à lire des rapports de recherche, les gros courtiers américains, l'évêque Beaubien-Geoffrion, qui est devenu la banque nationale. Puis j'ai été particulièrement intéressé par les rapports de stratégie de portefeuille, répartition d'actifs. Écoute, j'y lisais de long en large. Puis c'est ça qui m'a vraiment attiré par la finance de marché. Puis à cette époque-là, on est au milieu des années 90, tu sais, Wall Street se démocratise, il commence à avoir des films là-dessus, c'est de plus en plus médiatisé, CNBC commence, t'as les émissions à la télé, on s'en va vers la bulle Internet, fait que c'est très excitant dans le domaine. Alors, c'est un contexte très excitant puis formateur. Puis c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le bain de la finance d'un marché, puis je l'ai jamais quitté.
Tu es aussi allé vers une certification de CFA. Quel était le raisonnement derrière ça et qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté au courant de ta carrière?
Moi, j'avais pas fait de maîtrise. Alors, un bac en administration avec 1 an en finance, je voulais compléter ma formation puis avoir quelque chose d'un peu plus spécialisé. On est dans les débuts du CFA. Aujourd'hui, vous autres, vous en entendez parler constamment du CFA. Vous le commencez, vous débutez pendant que vous êtes au bac. Moi, j'ai entendu parler du CFA après que j'ai fini l'université. Ça ne me rajeunit pas d'arriver avec des arguments comme ça. Alors, ça me permettait d'avoir une spécialisation. Je n'avais pas fait ma maîtrise. L'important, je pense, c'est d'avoir un parcours universitaire et une formation qui est complémentaire. Donc, le CFA, à l'époque et aujourd'hui, est une très, très bonne formation que je recommande. Moi, je suis très heureux de l'avoir fait.
Tu es maintenant chef des marchés liquides ici à la CDBQ. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi consiste ton rôle et ton parcours jusqu'ici?
Oui, je suis arrivé à la CDBQ en 2020, fait que ça fait un peu plus de 4 ans que je suis à la CDBQ. Avant d'arriver ici, j'ai passé une vingtaine d'années sur le sell side en tant qu'analyste en stratégie de portefeuille, surtout spécialisé en marché boursier et en analyse en stratégie quantitative. J'ai fait 7 ans chez Valeurs Mobilières Desjardins. Je suis parti de Québec, je suis venu vivre à Montréal. Ensuite, j'ai fait 14 ans à la banque Scotia. Et lorsque j'étais analyste, quand j'étais sur le sell side, et ma job, c'était de conseiller, de prodiguer des conseils aux gestionnaires de portefeuille institutionnels, les grandes caisses de retraite. Alors, il y avait la caisse de dépôt qui était un client, PSP, mais tous les clients institutionnels à travers le monde, les grands fonds de pension, les fonds mutuels, c'était des clients. C'est un rythme qui est super excitant. Juste une bonne dose de pression quand tu es dans les marchés. Puis ça te prépare bien quand tu es sur le sell side aussi à arriver sur le côté acheteur, côté buy side. À la Caisse de dépôt et de placement du Québec, je suis ici depuis 2020, chef des marchés liquides. Marché liquide, marché public, c'est sensiblement la même référence. On parle des portefeuilles de marché boursier public, des portefeuilles de revenus fixes. Ça inclut aussi la dette privée chez nous à la Caisse, à CDPQ. C'est environ 270 milliards sur 450, au-dessus de 60 % des actifs de la Caisse qui sont dans les marchés liquides. Puis je suis aussi en charge de nos investissements quantitatifs. On a lancé des équipes et des stratégies quantitatives qui ont débuté en 2021. Mon rôle ici, moi, c'est de m'assurer que nos stratégies livrent la marchandise. Donc, ça veut dire permettre de dégager les rendements auxquels nos clients, nos déposants s'attendent. Alors, on a près d'une cinquantaine de déposants, 48 déposants ici à CDPQ. On gère une partie de votre fonds de pension, même si vous êtes tout jeune, si vous avez un job. Là, sur chaque paye, il y a de l'argent qui s'en va à RRQ. C'est un de nos plus grands déposants. Alors, mon rôle, c'est d'assurer qu'on a les bons processus, la bonne diversification, qu'on prend le bon niveau de risque au bon moment, faire évoluer les philosophies d'investissement, c'est important. Les marchés ne sont pas pareils aujourd'hui qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, certainement pas pareils qu'il y a une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de volatilité dans les marchés publics, dans les marchés liquides. Alors ça demande de toutes nos équipes d'être très, très agiles.
Tu as mentionné avoir travaillé dans le sell side et dans le buy side. Tu as touché un peu en disant que le sell side, vous avez préparé au buy side. En quoi ça t'a vraiment préparé dans le sell side?
Moi, je considère que je suis chanceux d'avoir travaillé des deux côtés de la rue. Alors, j'ai travaillé... ma première job, c'est 3-4 ans sur le buy side à transiger des obligations. Ensuite, j'ai passé un peu plus que 20 ans sur le sell side. Puis là, maintenant, je suis sur le buy side. J'ai toujours considéré que, un, c'est un cadeau d'avoir connu les deux côtés. Deux, aussi, mon premier emploi, ça a été dans les obligations. Et les marchés financiers, tout le monde est intéressé au stock, au marché boursier, le S&P 500 puis le Dow Jones. Mais les marchés sont drivés par les taux d'intérêt, l'économie, la macro. Alors ça a été une super, super bonne école. Ce que ça m'a apporté d'avoir passé du temps buy side, sell side, c'est de pouvoir te mettre dans la peau du client. Alors, j'ai passé le cours de ma carrière comme analyste, aller rencontrer des gestionnaires de portefeuille. D'avoir été de ce côté-là avant, ça m'a permis de relate à c'était quoi leur réalité? Quand tu prodigues des conseils comme analyste financier, il faut que tu réalises que le client sur le buy side, c'est tangible. Une recommandation, quand tu es analyste, tu l'écris, c'est sur papier. Quand tu es gestionnaire de portefeuille, tu prends position. Quand ça va bien, tant mieux, tu fais du profit. Quand tu trompes, le PNL est négatif. Il y a un impact. Donc, d'avoir compris la réalité des deux côtés, je le recommande à tout le monde, là. Au début, quand on commence notre carrière, c'est important on veut progresser rapidement, mais d'aller chercher ces petites expériences-là qui vont nous servir là, dans le futur. Là. Donc, pour moi, ça a été très, 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 très important.
Ayant expérimenté autant le sell side que le buy side, comment dirais-tu que ton équilibre de vie a évolué au courant de ta carrière et comment est-il en ce moment?
La finance de marché, que ce soit buy side ou sell side, c'est un univers super excitant, fast pace, ça bouge, mais c'est toujours ouvert. Les marchés sont toujours ouverts. Puis c'est encore, ça l'est encore plus de nos jours avec la multiplication des sources de données et des plateformes. Alors, tu apprends à faire du multitasking, tu apprends aussi à négocier avec ça. Moi, l'équilibre, je le garde en restant actif, en ayant des activités qui me permettent de décrocher. Quand je suis en famille, j'essaie d'être le plus concentré sur ces expériences-là. On a toujours eu un point d'honneur de faire des longs et des beaux voyages en famille, de pouvoir séparer ta vie professionnelle de ce que tu fais sur le plan personnel. Beaucoup d'entraînement, beaucoup d'activité physique. Mais je suis toujours en multitasking. Si je suis au gym, je suis en train de réfléchir à des choses pour la job. Souvent, les gens qui travaillent avec moi le savent quand je suis au gym parce qu'ils reçoivent plein de textos ou d'idées que je leur partage.
Maintenant, si on passe au segment plus marché, si on prend compte que la CDPQ est le fonds de placement des Québécois, comment est-ce que vous optimisez vos stratégies d'investissement en sachant que votre prise de risque est limitée?
Ah, bien, la prise de risque, le budget de risque nous est octroyé par nos clients, par nos déposants. Donc, on parle de 48 clients, 48 déposants qui ont tous des profils de risque différents, des horizons de placement différents. Pour certains, il y a un appariement actif-passif. Pour d'autres, c'est seulement de la gestion d'actifs. Donc, il y a un travail qui est fait de concert avec chacun des clients pour déterminer la répartition d'actifs qui va cadrer selon leur niveau de risque. Mais à la base, lorsqu'on construit un portefeuille, le rendement est important, mais il est toujours appliqué au niveau de risque associé à chacun des clients. Donc, il n'y a pas une prise de risque générale pour la Caisse de dépôt et de placement du Québec. C'est associé à chacun des portefeuilles. Bien, on vise une diversification. On vise une optimisation du risque rendement. T'sais, on est dans la répartition d'actifs 101 ici. Puis c'est l'aspect, je l'ai mentionné en introduction, mes premières expériences, quand je transigeais des obligations, j'ai été exposé au monde macro, au monde de la stratégie, la répartition d'actifs. Qu'on soit un gros client institutionnel ou qu'on ait un petit portefeuille, le vôtre, le mien, à la base, les premières questions qu'on se pose, c'est à quoi devrait ressembler la répartition d'actifs. Et ça, c'est en fonction du profil de chacun. Alors, c'est un travail qui est fait à grosse échelle ici, mais qui n'est pas différent de ce qu'on ferait pour un portefeuille d'un particulier.
Et comment est-ce que le double mandat de la CDPQ, donc générer des rendements pour les déposants, mais aussi contribuer au développement économique du Québec, affecte la facilité à générer des bons rendements ajustés au risque?
La double mission de la CDPQ, ça rend tout le monde très fier. Alors, ça nous distingue beaucoup des autres fonds de pension canadiens, des autres fonds de pension à l'échelle mondiale. Ça rend tout ce qu'on fait ici beaucoup plus concret. Puis ça a été un aspect d'attraction important là, quand on m'a offert le poste ici. Oui, j'aime les marchés liquides, oui, j'aime les marchés, mais cet aspect de double mission-là est très, très attrayant. Investir au Québec, c'est payant pour la Caisse. Et un point qui est important à mentionner, la Caisse de dépôt, c'est le fonds de pension qui est le plus présent dans son économie locale. On ressort du lot très favorablement par rapport à le poids de nos investissements au Québec, le rendement que ça génère et l'impact qu'on a sur l'économie. Et si je vous partage quelques chiffres, sur 10 ans, le rendement annualisé de la CDPQ s'élève à 7,4%. Notre indice de référence est à 6,5%. Donc, on surperforme l'indice de référence, c'est 28 milliards de valeur ajoutée. Sur la même période, sur les 10 ans, notre actif investi au Québec est en forte croissance, il a augmenté de 40 milliards. À chaque fois qu'on investit, que ce soit dans les entreprises privées, entreprises publiques, en infrastructure, on est là pour accompagner les entreprises. Certains ont des tailles différentes. On vise à les aider dans leur projet de croissance, à devenir, à atteindre des tailles de champions. Ce que ça a comme impact, c'est ça accroît les retombées au Québec. On favorise aussi beaucoup l'écosystème, le développement des fournisseurs, des partenaires qui sont impliqués dans tout le Québec, le Québec Inc. Et on crée des centres de décision d'envergure mondiale. On a beaucoup d'entreprises en portefeuille. Moi, j'en suis très fier. Lorsqu'on illustre, qu'on parle avec des pairs, on leur identifie la quantité d'entreprises de qualité qu'on a su appuyer. Donc, rendement et retombée au Québec, c'est la double mission. C'est un rôle dont on est très privilégié de pouvoir jouer ici à la CDPQ.
Donc, tu as mentionné que vous avez eu beaucoup de succès dans vos investissements au Québec. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple d'une entreprise québécoise dans laquelle la CDPQ a investi, qui a eu une croissance soit récemment ou qui t'a vraiment marqué là?
Oui, bien en fait, j'ai deux histoires ici, deux situations, des noms de compagnies que vous connaissez probablement, avec du détail sur l'historique. C'est toujours intéressant de voir comment ça s'est développé. Premier titre que je mentionnerai, compagnie CGI, groupe CGI, Capitalisation boursière de 35 milliards de dollars. C'est l'une des principales firmes d'experts conseils en technologie de l'information et en management au monde. La CDPQ, on est partenaire de CGI depuis au-delà de 30 ans. À la fin des années 80, au milieu des années 90, en 1995, on détenait déjà des actions CGI. En 1998, on a aidé CGI à entrer à la Bourse de New York. En 2012, une année charnière pour CGI, on a investi 1 milliard de dollars avec CGI pour les aider à faire l'acquisition d'un leader européen qui s'appelle Logica. Ça a été game changer pour CGI. Cette transaction-là demeure, ce jour, une des plus importantes pour CGI. La compagnie continue d'être en mode croissance. Plus de 100 acquisitions au fil des ans. Alors pour nous, la CDPQ, quand on nous pose la question, on aime beaucoup parler du partenariat qu'on a avec CGI. L'autre que je mentionnerais, c'est WSP. Capitalisation boursière de 31 milliards. Puis à coup de fusion, WSP, qui s'appelait Génivar auparavant, est devenu vraiment là, une des plus grandes firmes de génie et de services professionnels au monde. 100 000 projets en cours sur tous les continents. En 2012, Génivar a fait l'acquisition de WSP, une firme britannique. Donc, c'est comme un reverse takeover de WSP. Donc, changement de nom. Depuis ce temps-là, on parle de plus de 200 acquisition. Et ce que vous pourrez remarquer périodiquement, quand des entreprises québécoises comme ça ont des projets d'acquisition, on est souvent là à les accompagner avec du financement. Donc, ça rend tout ça très, très excitant et très tangible pour nous, là, surtout des compagnies qu'on connaît, de les voir grandir à travers le monde.
Comme on l'a mentionné, investir au Québec, c'est vraiment quelque chose de très important pour la CDPQ. Quelles sont les industries en ce moment avec le plus grand potentiel de croissance?
Peut-être mettre la table et donner un peu de contexte, quelques chiffres. Là. On l'a traité dans la dernière question. Notre actif au Québec, il s'élève à 88 milliards. On a un objectif d'atteindre 100 milliards d'ici 2026. Pour y arriver, bien, toutes les équipes sont impliquées. Moi, je m'occupe des marchés liquides, mais on a des équipes en infrastructure, en immobilier, en placement privé. Le Québec, les investissements au Québec, c'est toutes les équipes qui contribuent ici à la CDPQ. On utilise tous nos leviers pour s'assurer là, qu'on y est, que ce soit en infrastructure, en crédit privé. On vise à aider sur plusieurs angles. Bien, un, créer de la croissance durable. Donc, si on combine notre double mandat d'être présent au Québec avec notre ambition de croissance durable, appuyer l'évolution technologique. Ça ne veut pas juste dire investir dans des entreprises qui sont dans technologie, mais appuyer les entreprises dans d'autres secteurs qui pourraient bénéficier d'une amélioration technologique. Transition numérique est très, très importante. Il y a plusieurs industries. On parle du secteur industriel, les fintechs, la consommation. Un des angles qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est d'aider les entreprises à croître au-delà de leur marché domestique. Donc, internationaliser les entreprises de chez nous, tout secteur confondu, c'est toujours là, très haut sur notre radar.
Tu as eu la chance de travailler en revenu fixe plusieurs fois dans ta carrière et maintenant, tu es principalement responsable des placements en revenu fixe de la CDPQ. Comment est-ce que tu vois le marché du revenu fixe évoluer au cours de la prochaine année?
Les revenus fixes, le marché du revenu fixe est pas mal plus compliqué depuis quelques années. Il y a eu plus de volatilité dans les taux d'intérêt que sur le S&P 500 depuis 2021. Donc, quand on fait des analyses historiques, on fait du backtesting, ce qui se passe depuis 5 ans n'est pas arrivé souvent, puis c'était pas supposé arriver. C'est pas supposé arriver que les obligations soient plus volatiles que le S&P 500. Donc, une situation anormale qui rend ça plus compliqué pour les gestionnaires d'obligations. En tout cas, c'est très différent que ce qu'on a connu dans les 40 dernières années. Ça tombe bien, aujourd'hui, on a eu l'élection là, du nouveau président américain, M. Trump. Donc, on a de l'information additionnelle pour analyser ce qui pourrait se passer sur le marché du revenu fixe. Si on se positionne avant les élections, 2024, ce qui est intéressant, qui a eu un impact sur les taux d'intérêt, c'est que les banques centrales ont recommencé à baisser leur taux directeur. Donc, il y a un cycle d'assouplissement monétaire qui a débuté et c'est assez synchronisé. Alors, la Réserve fédérale a baissé ses taux d'intérêt, la Banque du Canada, la Banque centrale européenne, la Chine, après plusieurs années de croissance très, très décevante, injecte du stimulus dans l'économie. Puis cette tendance à l'assouplissement monétaire-là devrait se poursuivre en 2025. La raison pour laquelle les taux directeurs peuvent baisser, c'est que le rythme d'inflation a ralenti dans les derniers mois. Donc, les banques centrales peuvent regarder l'inflation puis se dire, OK, on peut réduire les taux d'intérêt. Pour les États-Unis, c'est moins évident. C'est moins évident parce que l'économie américaine est encore très robuste. Une des surprises importantes des dernières années, c'est à quel point l'économie américaine a résisté à la hausse des taux d'intérêt et comment l'économie américaine ressort du lot favorablement. Il va y avoir un équilibre à aller chercher aux États-Unis, quel va être le niveau de taux d'intérêt réel adéquat parce que l'économie roule encore bien, l'inflation a ralenti. L'une des données qu'il faut prendre en compte, c'est l'élection du président Trump. Même si ça avait été Harris, je pense qu'il faut mettre en relief que les Américains, la politique américaine, ont un billet plus protectionniste. Donc ça peut amener de l'inflation sur les chaînes de production, dans le secteur manufacturier. Il y a l'endettement aux États-Unis qui est à surveiller. Donc les prévisions pour le marché du revenu fixe dans les prochains mois, c'est quelques baisses de taux dans la portion courte de la courbe. Les banques centrales baissent leurs taux, mais on devrait s'attendre à une accentuation des courbes de rendement parce que dans le long terme, les taux à échéance 10 ans et plus ne devraient pas baisser de façon marquée parce que l'économie va encore bien et il y a du stimulus qui se pointe à l'horizon.
Si je reviens un peu sur ton expérience personnelle, j'imagine que tu as eu la chance de traverser plusieurs élections américaines. Est-ce que ça fait des grosses journées au travail, c'est des journées après des élections, que ce soit en revenu fixe ou que ce soit dans les equities?
C'est sûr que les deux, trois dernières élections ont amené plus de volatilité puis plus de mouvements sur les marchés. Peut-être parce qu'elles ont été surprenantes, peut-être parce qu'elles ont été serrées, peut-être parce qu'on a un contexte géopolitique qui est différent. Peut-être parce que c'est plus médiatisé, il y a les réseaux sociaux, mais on a rarement vu des élections amener autant de... On en a parlé beaucoup avant, pendant, et aujourd'hui on en parle beaucoup parce que il y a quand même un effet de surprise. Alors la volatilité qu'on voit sur les marchés aujourd'hui, je l'ai rarement vue. Et ce qu'on observe sur les marchés financiers depuis quelques années, c'est que les actifs américains font beaucoup mieux que les actifs du reste du monde. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, on le voyait hier quand les sondages, ou pas les sondages, mais les résultats de vote confirmaient une probable victoire de Trump, ensuite confirmaient un sweep. Il y a des mouvements majeurs aujourd'hui. Donc, je me suis couché tard. T'sais, on revient à ta question sur la vie personnelle. Je me suis couché tard, j'ai regardé mon téléphone souvent cette nuit. Je me suis levé vers 5h30. Arrivé au bureau à 6 heures. On a fait quelques mouvements dans les portefeuilles. C'est une journée dont on va se rappeler, tant du côté obligataire que boursier. Là, ça swing beaucoup aujourd'hui.
On a mentionné que les marchés étaient particulièrement volatiles dans les dernières années. Comment est-ce qu'un investisseur peut, surtout un investisseur d'envergure comme la Caisse, peut positionner son portefeuille pour bien s'en tirer, peu importe l'issue des résultats des élections ou d'autres événements qui sont un peu incertains?
Une des difficultés, je pense que un des avantages que tout investisseur, sur lequel tout investisseur doit miser, c'est un horizon long terme. Que ce soit la CDPQ, que ce soit mon portefeuille, ton portefeuille, tout le monde qui nous écoute, quand on a un plan de match et qu'on a un horizon long terme, on part déjà du bon pied. C'est périlleux d'essayer de se repositionner pour un événement X ou Y. Alors oui, ça brasse beaucoup sur les marchés aujourd'hui. Il ne faut pas se réveiller ce matin et se dire « Ah, il faudrait que je change le portefeuille ». C'est pas comme ça. Hein, ce ne serait pas ma suggestion à quiconque. C'est pas comme ça qu'on gère le portefeuille à la CDPQ non plus. Je reviens à ce que je mentionnais tout à l'heure, les décisions importantes sont la répartition d'actifs, combien qu'on veut en infrastructure, qu'on veut combien en marché boursier, en revenu fixe. Ensuite, comment on pense être la meilleure exécution dans chacun des portefeuilles. Il faut quand même être à l'affût des tendances qui changent. Moi, j'ai commencé à travailler en 1995, là on est en 2025. De 1995 à 2020, les taux d'intérêt baissaient tout le temps. Depuis 2020, les taux d'intérêt ne baissent plus tout le temps. Alors, il faut se questionner sur... Ça a un impact sur... Je parle du long terme, mais si on regarde les 10 prochaines années aujourd'hui, on ne peut pas les regarder pareil que si on les avait regardées en 2015 ou en 2010. Donc, on est affecté par tout ce qui se passe au niveau politique, politique monétaire. Mais il ne faut pas se laisser déconcentrer par des événements. Il faut garder le cap sur le long terme.
Tu as parlé un peu de la tendance. Quelle tendance et domaine de pratique suscite le plus ton intérêt en prévision de 2024 et au-delà?
Ben, je voulais parler de science des données et d'investissement quantitatif parce que ça c'est un sujet, je pense, qui doit être sur le radar de tous les investisseurs, de tous les étudiants aussi qui sont en finance. Nous, à l'interne, on a fait un virage important dans la façon dont on gère nos portefeuilles boursiers. L'importance grandissante des sciences des données, des algorithmes. Donc, je pense que ça, c'est un aspect qui ne fait que commencer et qui va aller en s'accroissant. Je suis un gros adepte de la finance comportementale, behavioral finance. Quand je dis adepte, c'est que je comprends que les biais humains, la subjectivité, peut contrecarrer un plan de match assez rapidement en investissant. Et l'utilisation du data, des algorithmes, de bons backtests est une bonne façon de contrer ou de limiter l'impact des biais. Pourquoi je veux parler des sciences de données et d'investissement quantitatif? Bien, on est à une époque où bon, tout le monde en parle de cet aspect-là, mais tu regardes le cloud, l'info nuagique, ça réduit le coût des calculs CPU, GPU sur demande. Donc, ça facilite le stockage de données, puis ça donne accès à plusieurs algorithmes. On peut faire plusieurs analyses. Il y a moins de monde qui le faisait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Là, aujourd'hui, avec ce qui est disponible, on ne peut pas passer à côté. En finance, surtout dans les marchés liquides, on manipule des données sans cesse. Il y a beaucoup de data qui sont disponibles. Je ne parle pas juste des data de Bloomberg, mais des séries de data alternatives. Puis là, bon, aujourd'hui, l'IA générative arrive et progresse très, très rapidement, qui nous permet de traiter beaucoup plus de données. Alors, l'investissement, historiquement, ça a été très fondamental, bottom-up, stock-picking. Garder en tête que tout l'impact du data science puis du quantitatif avec ce qui se passe aujourd'hui là, dans l'IA, dans l'AI et tout ça, ça m'excite beaucoup. Ça fait partie de mes plans stratégiques pour mes équipes. Puis je pense que pour vous autres, dans le cadre de vos études, c'est important de le réaliser que ça va prendre une formation en finance, mais n'oubliez pas que tout le volet math, quant puis data science est très, très important.
Très intéressant. On va maintenant pivoter vers notre segment de mentorat. On sait que la Caisse recrute activement des jeunes parmi les universités québécoises et offre de nombreux programmes de stage. Comment est-ce qu'un candidat peut se distinguer en appliquant à la CDPQ?
Oui, mais ici à CDPQ, nous, ce qu'on recherche d'abord, c'est des gens, c'est des ressources qui vont cadrer, qui vont être en adéquation avec qui on est, avec notre fit. Il faut qu'il y ait un fit culturel. Il y a quatre pôles de culture à la Caisse. Nous, on mise beaucoup sur la collaboration, sur l'ambition, l'ouverture et l'imputabilité. Donc, quand vous bâtissez votre CV, si vous parlez à des gens à la CDPQ, si vous vous retrouvez en entrevue, c'est important de mettre de l'avant ses compétences lors de votre candidature. On recherche vraiment des profils très, très variés, que ce soit des profils variés, diversifiés en termes de, d'expérience, d'origine, de parcours universitaire. La diversité, ça se décline à bien des endroits. On est convaincu que, d'un, ça fait de nous un meilleur gestionnaire d'actifs, ça contribue à la performance, puis ça fait que nos équipes sont beaucoup, beaucoup plus innovantes. Il n'y a pas une seule façon de se distinguer pour les postes de stage. Donc, s'assurer qu'on vous apporte quelque chose de diversifiant dans le mix, c'est, que ce soit pour les stages ou les nouveaux employés ou de bâtir les équipes, c'est toujours très, très important. Il ne faut pas sous-estimer l'importance, l'utilité du réseautage. Ça a toujours été le cas, là, pas juste en 2025, là, mais ça, c'est important. Votre CV, c'est la carte de visite, c'est la première chose que je vais voir, que les gens de ressources humaines vont voir. Alors, il faut que ce soit ça coche, impeccable. Les activités extracurriculaires. Et ça, c'est un aspect qui est très, très important. Vous êtes tous très performants, vous étudiez en finance, vous êtes à McGill. On n'a pas oublié qu'il y a d'autres aspects qui vont faire de vous un candidat ou une candidate qui est très, 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 très importante. Puis les compétences complémentaires, et tout ce qui est communication, gestion du stress, et faire un bon pitch, c'est important. Là. Important, puis ça se prépare. Alors, on cherche des gens qui viennent rendre la caisse meilleure, mais il y a des façons d'arriver bien préparé en nous connaissant puis en vous connaissant également.
Tu as parlé un peu de compétences, justement. C'est quoi les meilleures façons de développer ces compétences-là, comme la communication, tout ce qu'il faut pour un bon candidat?
Écoute, j'ai pas de recommandation là, révolutionnaire à cette question-là. Je te dirais ceci. Je pense que c'est important pour quiconque, que ce soit un candidat, que ce soit pour moi, c'est important d'être conscient de ce qu'on fait bien puis de ce qu'on fait moins bien. Et savoir ce qu'on sait, savoir ce qu'on ne sait pas. Fait que ça prend du self-awareness, pas être gêné de demander de la rétroaction, peu importe le contexte, parce que ça devient important, ça, parce que c'est comme un guide, dire, OK, il faut que je travaille ceci, il faut que je travaille cela. Puis une fois que tu le sais, ben, t'en fais ta priorité. Moi, j'accroche beaucoup sur l'aspect communication. Pour avoir du succès sur le sell side, il faut que tu saches communiquer. Pour savoir communiquer, ben, il y en a qui ont plus de talent que d'autres, mais je peux te garantir que ceux qui communiquent le mieux, s'ils ont décidé qui en faisait une priorité. Une priorité, c'est quoi? C'est travailler plus fort sur tes habitudes de communication. Aujourd'hui, j'irai voir des cours sur YouTube, je ne sais pas, un cours de Toastmaster, mais tu sais, si tu en fais ta priorité, tu en es conscient, déjà c'est un bon départ, tu en fais ta priorité, you make it happen, il faut que ce soit le focus. Ça paraît quand quelqu'un a décidé qu'il veut s'améliorer sur un aspect ou un autre.
Donc, nous allons maintenant passer au segment des questions à réponse rapide. Donc, c'est des questions qui devraient se répondre au maximum en quelques phrases. La première est, quel est le meilleur conseil qu'on vous a jamais donné?
On m'a déjà dit quand j'étais analyste, pense comme un investisseur, pas comme un analyste. Puis tout ça se réfère à la notion de comprendre l'interlocuteur qui est devant toi. Dans mon cas, c'était de comprendre le client. Dans quel contexte ton travail va être interprété, de se mettre à la place de celui ou celle qui va t'écouter. Je pense que ça s'applique à plein de domaines. Moi, ça m'a été très utile quand j'ai voulu faire ma place comme analyste sur le sell side.
Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu dirais que ta moyenne générale, ton GPA, est important en tant qu'étudiant?
Je répondrais 7. Le GPA est un bon indicateur, mais il y en a tellement d'autres à considérer. Surtout partant du principe que quand vous vous rendez en entrevue, habituellement, le GPA va être attrayant. La plupart des finissants sont spécialisés dans un segment. Puis je considère que la diversité de savoir, de knowledge, c'est un axe à privilégier. Ça prend un mix d'expériences, académiques ou autres, un bagage de formation aussi, un peu de sciences, de finances, d'expérience de travail en vente. J'ai parlé des compétences de communication tout à l'heure. C'est un must. Pour moi, c'est aussi, sinon, plus important que le GPA. Puis l'intelligence émotionnelle, c'est très, très important. Plus difficile à mesurer, mais quand on le sait, on peut déjà s'adapter.
Si tu n'étais pas dans le secteur de la finance, que ferais-tu à la place?
J'aurais rêvé de jouer au hockey pour les Nordiques, dans la Ligue nationale de hockey. J'ai répondu ça parce que c'était vraiment mon rêve quand j'étais jeune. Puis aujourd'hui, mais ça doit faire 30 ans que je suis en finance. Je ne sais pas ce que je serais vraiment dans le trouble s'il fallait que je fasse ce que je fais autre chose. Mais quand je regarde ce qui me branche beaucoup, ce qui m'excite de plus en plus dans mon travail, je gère des grosses équipes, tout l'aspect formation, accompagnement, aider les équipes, l'équipe à grandir. Je trouve ça très, 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 très motivant. Alors, peut-être qu'un jour, je vais me retrouver comme prof, mais je pense que j'étais à la bonne place. Je pense que j'étais à la bonne place, puis je patinais pas assez vite pour être dans la Ligue nationale.
Pour finir, quel est un livre que tu recommanderais à nos auditeurs aujourd'hui?
Bon, mais je vais prendre une chance ici. Je vais en recommander trois, mais je vais aller rapidement. Vas-y. D'abord, deux livres qui traitent de l'utilisation du data pour contrer les biais subjectifs. Le livre Moneyball. Le livre est bien meilleur que le film. Vous avez juste à imaginer Brad Pitt pendant que vous lisez le film. L'autre livre, c'est « The Man Who Solved Markets ». C'est l'histoire de Jim Simon. C'est le fondateur d'un des plus gros hedge funds aux États-Unis, la firme Renaissance. Il est décédé cette année. Alors, data, quant, très, très intéressant. Puis le troisième livre, c'est « Sapiens » de Yuval Noah Hariri. J'aime beaucoup les récits qui combinent histoire, sociologie et évolution. C'est très intéressant de mettre en contexte l'histoire avec un grand H, puis réaliser que tu es capable de mieux comprendre ce qui se passe en ce moment, puis ça aide à se projeter vers l'avenir. Le prochain livre que je veux lire, c'est Nexus, du même auteur.
Merci beaucoup Vincent pour ton temps aujourd'hui, c'est très apprécié.
Ça a été un plaisir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos plateformes dont Spotify, Apple Music, LinkedIn et Instagram. Merci tout le monde et à la prochaine.
The sole purpose of this podcast is to educate and to inform our listeners. It is by no means a substitute for professional guidance by qualified experts. This podcast is provided on the understanding that it does not constitute financial or other professional advice or services. Instead, we encourage you to discuss your career options, as well as financial undertakings with other professionals who specialize in wealth, securities, and asset management or any other field of financial services. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at a personal and individual risk. This podcast should not be considered professional advice. Guests who speak on this podcast express their own opinions, experiences, and conclusions. The views expressed on this platform are personal opinions and only, and should not be construed as financial advice for your given situation or from a given institution. While all attempts are made to present accurate information, it may not be appropriate for specific circumstances, and information may become outdated over time. No firm, nor any company providing financial support endorses or opposes any particular view or tools discussed in this podcast. This podcast is available for private, non-commercial use only. Advertising, which is incorporated into, placed in association with, or targeted towards the content of this podcast is forbidden. This podcast may not be edited, modified, or redistributed. The Corporate Chat Podcast is no liability for any personal activities in connection with this podcast or for personal use of this podcast in connection with personal websites, computers, or playing devices. Moreover, the Corporate Chat Podcast makes no warranty that this podcast or the server that makes it available is free of viruses, worms, or other elements or codes that manifest contaminating or destructive programs. McGill University and our sponsors expressly disclaims any and all liability or responsibility for any direct, indirect, incidental, special, consequential, or other damages arising out of any individual views of, reference to, reliance on, or inability to use this podcast or the information presented in this podcast.